Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h en direct, comme tous les jours. Hein. Il est évidemment à mes côtés pour nous éclairer sur les questions de santé qui nous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Allez, au sommaire ce jeudi, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à notre cœur ou plutôt à notre rythme cardiaque. Notre rythme cardiaque, c'est comme une musique, une mélodie qui parfois peut s'emballer. Ça peut être ponctuel à cause d'une émotion forte, par exemple. On va vous expliquer bien sûr comment tout ça fonctionne en temps normal, mais on va aussi s'intéresser à ces arythmies, ces troubles du rythme qui peuvent être des pathologies. Quels sont les signes qui doivent donner l'alerte? Comment ça se soigne? On fera le point. Et pour nous en parler, nous recevrons le professeur Xavier Jouven. Il est cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et chercheur à l'INSERM. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed va tirer la sonnette d'alarme. Selon l'établissement français du sang, nos réserves en produits sanguins sont au plus bas. Il y a urgence, il va nous expliquer tout ça. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera des conséquences que peuvent avoir les problèmes d'infertilité sur la sexualité dans le couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Muriel. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie, j'ai une petite question à vous poser. C'est ma fille qui a 18 ans, sa meilleure amie qui a également 18 ans, qui a demandé pour son anniversaire une épilation définitive. Ma fille souhaite la même chose. À votre avis, est-ce que c'est raisonnable à son âge de faire une épilation définitive? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce qu'il y a des zones à éviter? Merci de répondre à cette question. Bonne journée, au revoir.
Bon, Jimmy, même si vous êtes un professionnel d'épilation définitive, on a préféré se tourner vers un spécialiste un peu plus aguerri, le docteur Jean-Marc Ada, il est médecin esthétique.
À 18 ans, le système hormonal n'est pas complètement équilibré et terminé, ce qui fait qu'elle risquerait d'avoir besoin de plus de séances qu'une femme qui viendrait nous voir à l'âge de 20 ans. Donc, pas de souci pour faire ces séances. La seule chose, compter éventuellement à une augmentation du nombre de séances. Sur le plan de la santé, il n'y a strictement aucun risque pour la santé de votre fille, ni sur le plan gynécologique, ni sur le plan cutané, ni sur autres paramètres corporels qui puissent avoir en conséquence après le laser. Donc, aucun souci à ce niveau-là.
D'ailleurs, Jimmy, vous avez eu aucun souci non plus. Hein.
Ça s'est très bien
passé. Quand
vous
avez fait vos séances, il n'y a pas eu de problème.
Pour le CIF, c'était parfait.
Voilà, c'était le docteur Ada au micro de Valentin Piovesan, Jimmy. On va prendre une seconde question, celle-ci, elle est vraiment pour vous. C'est la question d'Arnaud qui vit dans les Hauts-de-Seine, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'ai souvent la peau sèche et des démangeaisons à des endroits très précis. Vers le coude, juste en dessous de l'épaule et aussi à l'arrière des mollets. J'aime bien prendre des douches chaudes, très chaudes, et je me demandais si ça n'avait pas un lien. Je dois avoir un dermato ou ça va?
Alors, c'est une question pointue, Jimmy, qui est décrite des démangeaisons, mais dans des zones très particulières. Alors là, je vous laisse parler, ça fait penser à quoi? Je ne sais pas.
Ça ressemble a priori à de l'eczéma sur des zones très particulières. Lorsqu'il dit que ça lui gratte au niveau des coudes, derrière les genoux, c'est souvent des zones d'eczéma, en fait, en particulier chez l'adulte. Et il y a le facteur déclenchant de la douche chaude. D'une façon générale, sans insulter évidemment les dermatologues, il faut comprendre qu'il y a deux choses.
On parlera d'eczéma demain d'ailleurs, hein, donc ça tombe très bien, n'insultez personne, Jimmy, attention.
Mais en dermatologie, vous avez deux choses. Soit c'est une allergie, soit c'est une infection. Du côté de l'allergie, vous avez la famille de l'eczéma, du psoriasis, qui peuvent vous donner justement des lésions de grattage. Et puis de l'autre côté, vous avez les infections, que ce soit des infections bactériennes avec un petit staphylocoque, ou bien certaines mycoses. Et ce qui permet de différencier les deux, c'est est-ce qu'il y a une plaque ou pas. Si jamais ça lui gratte alors qu'il a des lésions blanchâtres, un peu suintantes,
peu de doute,
exactement,
sûrement eczéma,
on est plutôt sur de l'eczéma ou un champignon si ça sent très mauvais. Donc voilà, ce qu'il décrit ressemble plutôt à de l'eczéma, mais encore une fois, c'est difficile comme ça.
Parce qu'il demande si ça peut avoir un lien avec les douches chaudes, il fait lui-même le lien. Hein. Donc c'est ça, c'est parce que quand on a de l'eczéma, l'eau trop chaude, ça peut agresser cet épiderme qui est déjà très fragile. On détaillera tout ça plus demain, mais je crois qu'il y a vraiment un lien.
Exactement, vous avez raison Mélanie, l'eau chaude, elle agresse la peau, elle va provoquer des démangeaisons et elle va aussi assécher la peau. Je vous propose de faire un test tout simple, vous trempez votre doigt dans un verre d'eau, vous le laissez sécher à l'air libre et au bout de quelques secondes, vous allez rendre compte qu'il est très sec. Donc l'eau est un asséchant et ça va être un facteur d'aggravation. Donc plutôt que de prendre des douches très chaudes, qu'il prenne des douches et pas des bains, d'accord, parce que le bain va aussi favoriser la macération, plutôt tiède. Et comme vous, Mélanie, le faire un jour sur deux. Parce que finalement, on n'a pas besoin de se doucher tous les jours, en dehors des parties génitales qu'il faut nettoyer avec du savon, car on oublie que le savon est aussi un agresseur et qu'on va se débarrasser du microbiote cutané qu'on a, vous savez, la flore cutanée, comme la flore digestive.
Qui nous protège en réalité.
Exactement.
Hein,
et si on se décape toute la journée, tous les jours, parce qu'on se croit sale, eh bien à ce moment-là, la barrière cutanée va prendre ça pour une agression et donc vous allez produire encore plus d'inflammation et d'eczéma en frappant.
Là, il commence à faire faire chaud, donc on va quand même garder la douche tous les jours, Jimmy. Vous disiez ça peut être d'origine allergique, comme une sorte d'eczéma de contact aussi, mais alors on ne peut pas être allergique à l'eau, c'est pas ça. Hein,
alors
mais,
ouais. L'eczéma, c'est une forme d'allergie, c'est ce qu'on appelle l'atopie. Lorsqu'on parle d'eczéma de contact, en général, c'est plutôt sur des zones très ciblées. Vous avez par exemple un collier, un pendentif, et vous allez développer, car vous avez une allergie au nickel, par exemple, un eczéma de contact. En revanche, lorsqu'il décrit des lésions un peu diffuses, à moins qu'il soit allergique à un matériau particulier, d'ailleurs, on recommande aux patients qui ont des allergies cutanées de prendre des vêtements plutôt en coton plutôt que des vêtements synthétiques. Donc l'eczéma de contact, moi j'y crois moyen.
D'accord. Et pour calmer donc les démangeaisons ponctuelles qu'il décrit comme ça là, à la sortie de la douche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Hydrater.
Exactement. Le premier des traitements, c'est prendre soin de sa peau tous les jours avant même qu'il y ait des lésions. Et donc lorsque vous avez l'impression d'avoir la peau sèche, que vous ayez de l'eczéma ou non, c'est de mettre une crème émolliante, c'est-à-dire une crème hydratante qui va venir
la plus basique possible, sans produits chimiques.
Exactement. Ne mettez pas très très cher là-dedans, ça marche très bien. C'est le classique qu'on connaît tous, qui commence par Nick, qui finit par VA, peut faire largement l'affaire. Donc c'est s'hydrater sa peau, le bain, pas tous les jours. Et puis évidemment, si les lésions persistent, d'aller voir le dermatologue, puisqu'il pourra prescrire
sur les lésions.
Ce qu'il
décrit, de toute façon, il faut consulter.
Oui, parce que dans ces cas-là, lorsque ça ne passe pas, on prescrit des dermocorticoïdes qui vont lutter contre l'inflammation et qui vont vous permettre d'arrêter ces lésions de grattage et retrouver une belle peau pour l'été.
Très bien. Et plus de précisions sur l'eczéma demain, donc dans son rendez-vous. Merci Jimmy. Si vous aussi, comme Arnaud, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va parler de notre cœur et de certains troubles du rythme cardiaque. Quand notre cœur s'emballe ou au contraire bat trop lentement ou de façon irrégulière, quels sont les risques? Comment prend-on en charge les différentes arythmies? On y revient dans quelques toutes petites minutes. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. Bienvenue professeur Xavier Jouven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, vous êtes également chercheur à l'INSERM. Et avec vous donc on va s'intéresser à notre rythme cardiaque aujourd'hui et aux troubles qu'il peut subir. Une émission préparée en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale, qui est le premier financeur caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Alors professeur Jouven, on va commencer par les bases. Comment notre cœur fonctionne peut-être. En fait, quel est le mécanisme à l'origine de nos battements? Puisqu'aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler vraiment des troubles du rythme cardiaque. Pourquoi il bat? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a une petite commande électrique qui est autonome et qui est installée sur la partie supérieure droite du cœur et qui envoie une impulsion électrique. Cette impulsion électrique, eh ben, elle peut être accélérée ou ralentie en fonction de différents stimulus, alors soit neurologiques, soit hormonaux, soit parce qu'on fait de l'exercice. Et cette commande électrique, c'est le nœud sinusal, envoie un rythme sinusal. Cet influx électrique va donc traverser le cœur, d'abord les oreillettes, qui sont les deux cavités qui sont au-dessus, puis ensuite les ventricules, qui sont les deux cavités qui sont en dessous. Et cet influx électrique parcourt tout le cœur.
Il y a une pile naturelle dans le cœur.
Il y a une pile naturelle. Il y a même des piles qui battent depuis plus de 100 ans. On a gardé des piles de poules et on les fait avec de l'eau, du sel, voilà. Et ça continue à battre sur des centaines d'années.
Alors, si on prend un adulte en bonne santé, un rythme cardiaque normal, à quoi ça correspond? Et peut-être, est-ce qu'il y a une différence probablement entre les hommes et les femmes?
Alors oui, il y a le rythme cardiaque à peu près au repos, ça se prend au repos après un peu de justement 5 minutes de repos assis, c'est à peu près entre 55 et 75. Vous voyez qu'il y a une grosse marge, ça dépend justement.
55, c'est les grands sportifs comme Jimmy.
Alors voilà, exactement, les grands sportifs plus effectivement. Alors les femmes ont des battements du cœur un peu plus rapides que ceux des hommes. Et ceux qui sont sportifs, effectivement, plus on fait d'exercice physique, plus on ralentit cette fréquence cardiaque parce que la force musculaire, le muscle se contractant plus fort, il éjecte plus à chaque battement, donc il a moins besoin d'éjecter souvent. Donc plus on est sportif, plus la fréquence cardiaque redescend.
Je me suis souvent demandé pourquoi les sportifs comme ça avaient des cœurs qui battaient très très bas au repos. Parce que je me disais au contraire, ils sont très actifs, ils devraient avoir un cœur hyper actif. Mais non, en fait, il s'est musclé, il a l'habitude de travailler beaucoup plus fort, donc il travaille plus lentement.
Lentement et donc à l'exercice physique, ça augmente beaucoup. Il augmente beaucoup sa fréquence cardiaque à l'exercice physique.
Jimmy, il va monter à combien par exemple? À 200, c'est ça? Et après redescendre à 50, alors, c'est ça?
Le maximum, on dit, c'est 220 moins l'âge.
D'accord.
Et ensuite, quasiment le meilleur marqueur d'entraînement physique, c'est quand vous arrêtez un exercice intense, en combien de temps votre cœur redescend. Et les cyclistes du Tour de France, par exemple, c'est impressionnant. À l'arrivée, vous devez le voir, ils sont complètement épuisés, une étape des Alpes. Et en quelques minutes, ça y est, leur cœur est redescendu, ils peuvent parler, on peut les interviewer. Alors après plusieurs heures de travail intense.
Alors du coup, si on prend les sportifs, ils ont un cœur qui bat plus lentement, car il est plus musclé en quelque sorte. Ça veut dire que si notre cœur bat plus vite au repos, à 90 ou 100 par minute, comme vous l'avez dit, en étant tranquille, ça veut dire peut-être qu'on a un cœur qui est en moins bonne santé. Est-ce qu'on peut faire cette analogie ?
Alors, ce n'est pas que le cœur qui est un peu en moins bonne santé. En fait, c'est l'ensemble de l'organisme qui est un peu désadapté au sport. Parce que c'est comme pour une voiture de course, en fait. Le cœur, c'est le moteur. On peut avoir un très bon moteur, mais il faut avoir la carrosserie, les pneus, l'aérodynamisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir les muscles un peu entraînés, la circulation du sang également qui se fait mieux si on est entraîné, l'oxygénation, quand on respire, on capte plus d'oxygène, les échanges au niveau du poumon et les échanges entre le sang et le muscle. Donc, bref, tout ça... Dès qu'on fait du sport, on améliore ça, en plus d'améliorer le moteur.
Quand on parle de tachycardie, précisément, ça veut dire que ça bat trop vite. C'est pas forcément pathologique,
pas
toujours.
Par définition, ouais. C'est une fréquence cardiaque au-dessus de 100 par minute. Tachycardie, c'est au-dessus de 100 par minute.
Et parfois, on peut avoir des extrasystoles. On sent des battements supplémentaires dans le cœur. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte, d'ailleurs? Ou est-ce qu'on peut ne pas s'en rendre compte? Faire des extrasystoles, si on enregistre le cœur de quelqu'un, on dit tiens.
Alors, effectivement... c'est impressionnant parce qu'on dit il y a des extrasystoles, il y a eu un battement.
On entend ça dans les séries à la télé, mais on sait jamais ce que ça veut dire.
Il y a eu un battement anormal. Mais en fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Parce que le cœur, c'est extraordinaire. Le cœur d'un fœtus commence à battre après 9 semaines de grossesse. C'est-à-dire qu'on voit déjà le cœur tout petit qui bat. Donc c'est votre âge plus quasiment 8 mois, 7 mois de plus. Ça bat parfaitement, très régulièrement, ça accélère quand il faut, ça ralentit quand il faut, c'est complètement extraordinaire. Donc qu'il y ait un petit raté de temps en temps parce qu'il y a une contraction prématurée,
c'est pas forcément grave.
C'est absolument normal. Ce qui est même fantastique, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Donc c'est tout à fait normal d'avoir quelques battements irréguliers une fois de temps en temps. Et on peut ne pas les sentir ou on peut les sentir.
Et faire des petites tachycardies de temps en temps parce qu'on a eu une émotion, une activité, ça aussi, c'est pas forcément pathologique.
Alors,
on est d'accord.
Non seulement c'est pas pathologique, mais c'est physiologique. C'est-à-dire
le cœur s'adapte, quoi.
Exactement. Si vous avez besoin de faire une émotion, soit effectivement du stress, par exemple, il faut se défendre. Alors, contre un animal, soit il faut partir en courant très vite, mais effectivement, la respiration s'accélère, le cœur s'accélère, la pression artérielle monte, c'est physiologique de pouvoir se défendre. Donc, si on a une émotion et que le cœur s'accélère, c'est que tout fonctionne très bien.
Bon, très bien. Professeur Jouven, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous aujourd'hui, on vous propose un éclairage sur les troubles du rythme cardiaque. Quand le cœur perd le tempo, d'ailleurs, comment savoir qu'on souffre peut-être d'un problème de ce type? Quels sont les symptômes qui doivent donner l'alerte? Comment se fait le diagnostic? On vous explique tout dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. On parle de notre cœur, des troubles du rythme cardiaque avec vous, professeur Xavier Jouven. Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes également chercheur à l'INSERM. Alors, on va passer à des choses qui sont plus pathologiques, je veux dire, puisqu'on a expliqué comment tout ça fonctionnait, cette électricité finalement dans notre cœur. Et donc, il y a des troubles du rythme cardiaque chez les patients français qui sont pathologiques, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la population, si on les regroupe toutes, parce qu'il y en a plusieurs de problématiques?
Alors, la plus fréquente, l'anomalie, c'est la fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire. Et elle touche à peu près 0,5% de la population, donc c'est très fréquent. Et à partir de l'âge de 65 ans, c'est presque 10% de la population qui en fait, soit par épisode, soit en continu, soit des salves. Donc c'est une arythmie qui est très fréquente.
Et justement, on va mettre les pieds dans le plat. En quoi ça consiste, cette fibrillation auriculaire? Parce que dit comme ça, ça a l'air assez compliqué.
Alors, en fait, les oreillettes, au lieu d'être sous la commande là, du nœud sinusal, comme je disais, il y a ce contract d'à peu près 300, 400, 500, 600, 700 fois par minute, de manière très désordonnée. Donc, il n'y a plus d'efficacité hémodynamique. L'activité électrique étant fibrillatoire, on imagine une fibrillation, il n'y a plus d'efficacité hémodynamique. Donc, le sang n'est plus chassé activement des oreillettes. Il passe passivement dans les ventricules.
Ça sonne faux, quoi. Il y a plus de c'est plus régulier, c'est ça, ça,
alors,
ça bat n'importe comment.
C'est complètement irrégulier.
Quoi,
le rythme ensuite, donc le rythme de la pompe, qui est le ventricule, le rythme ventriculaire est irrégulier. Il est généralement plus rapide et irrégulier.
Quelle est la cause de cette pathologie?
Alors, il y a plein de causes possibles, mais c'est quand l'électricité est désorganisée au sein des oreillettes. Il y a plusieurs endroits qui prennent la commande en même temps, de manière désordonnée. Et ce qu'il faut, effectivement, c'est, si on veut résoudre cette anomalie, c'est un peu comme au niveau ventriculaire, faire un choc électrique pour casser cette arythmie.
Alors, on comprend, c'est une espèce de tempête électrique dans l'oreillette. Le patient, il va s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut passer à côté d'une fibrillation auriculaire?
Alors oui, parce qu'il y a plein de gens qui n'en rendent absolument pas compte. En fait,
c'est la telle pagaille que vous avez décrite dans le cœur et le patient, il est normal.
Oui, ouais. En fait, la contribution justement des oreillettes au débit cardiaque normal chez quelqu'un au repos, c'est que de 5%. C'est-à-dire que si on perd ça, on perd que 5% du débit.
Oui.
Par contre, si on a un cœur déjà abîmé, si on perd ça, on peut perdre jusqu'à 20 ou 25% du débit. Donc là, ça se sent beaucoup quand les gens ont un cœur abîmé. Mais sur un cœur sain, on peut ne rien sentir. Il y a des gens qui ne sentent pas du tout qu'ils sont en arythmie. Des gens qui alternent rythme normal ou arythmie et qui ne le sentent même pas.
Et du coup, s'ils ne le sentent pas, c'est que ce n'est pas si grave. Évidemment, c'est une fausse question quand je vous dis ça. C'est-à-dire que l'arythmie cardiaque, dit comme ça, pourquoi il faudrait la traiter ?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'en elle-même, l'arythmie cardiaque n'est pas dangereuse, la fibrillation atriale n'est pas dangereuse en elle-même, parce que le cœur est un peu irrégulier, un peu plus rapide, bon oui, certes. Mais simplement, ce qui est embêtant, c'est l'inefficacité hémodynamique. Donc comme ça ne chasse plus, le sang n'est plus chassé mécaniquement des oreillettes, et il y a des endroits où le sang peut cailloter un peu, parce que effectivement.
Et là, quand ça se bouche, on sait que ce n'est pas bon. Hein.
Et quand il y a un petit caillot qui est dans une oreillette, il peut éventuellement migrer et donner, par exemple, un accident vasculaire cérébral.
Comment on confirme le diagnostic et un examen particulier ? Vous nous allez enregistrer l'électricité dans le cœur, j'imagine. Hein, c'est
alors,
ça
c'est très simple, un électrocardiogramme. Alors, déjà, si on prend, si on écoute le cœur ou si on prend le pouls, on voit un pouls irrégulier. Et puis, à l'auscultation, on entend des battements du cœur irréguliers. Si on a fait un électrocardiogramme, on voit tout de suite le diagnostic de fibrillation atriale. Donc, c'est un diagnostic très simple.
Donc, vous avez dit le risque majeur, c'est de faire un accident vasculaire cérébral, qu'un petit caillot se forme et poc, qui remonte au niveau du cerveau. Du coup, vous prescrivez parfois des anticoagulants ?
Alors, il y a différentes stratégies, effectivement, quand il y a de l'arythmie, si elle est fréquente, si elle est continue, si elle est... Voilà. Alors, pour fluidifier le sang, il y a différents traitements de l'arythmie, hein, mais les traitements qui consistent à fluidifier le sang, soit on les fluidifie avec très très peu de choses, comme un tout petit peu d'aspirine, aspirine nourrisson, hein, c'est de 75 mg, 100 mg, toute petite dose, ça suffit pour fluidifier le sang. Parfois, si jamais il y a d'autres anomalies et qu'on veut fluidifier de manière plus importante, on donne des anticoagulants.
Et aussi des bêta-bloquants, je crois, dans ces cas-là. On peut prescrire à ces patients-là, c'est possible.
Alors ça, c'est autre chose. C'est soit on veut réduire l'arythmie, on veut revenir dans un rythme normal. À ce moment-là, il y aura un traitement anti-arythmique. On peut en discuter. Soit on dit, OK, on va respecter l'arythmie. On reste avec l'arythmie, mais simplement, on la ralentit un peu. Et là, les bêta-bloquants ralentissent un peu l'arythmie. Donc on la respecte, on dit très bien. Finalement, elle ne vous embête pas. On peut la laisser tout à fait. Simplement, on ne veut pas que ça batte trop rapidement. Et on donne des bêta-bloquants.
L'hygiène de vie compte pour ces patients-là ? Est-ce qu'en arrêtant de fumer, de boire, je ne sais pas, des choses qui sont évidemment mauvaises pour la santé, ça peut déjà améliorer les choses ?
Alors, une fois qu'on est en arythmie, non, ce n'est pas parce qu'on va arrêter de fumer que le lendemain, l'arythmie va s'arrêter.
Mais
ou
l'alcool,
si on arrête
c'est un
de
impact.
Boire.
Chez les patients qui ont des fibrillations auriculaires, l'alcool a un impact. Je crois que si on diminue sa consommation, on diminue le risque de récidive.
Alors, effectivement, les alcoolisations aiguës, très importantes, par exemple, notamment ce qu'on voit parfois chez les jeunes, mais ça se voyait beaucoup dans les pays nordiques, peuvent s'accompagner d'arythmie. Alors là, ça peut déclencher une arythmie. Oui, l'alcoolisation aiguë peut déclencher une arythmie. Et une alcoolisation chronique, des doses importantes d'alcool de manière chronique, aussi favorise l'arythmie.
Professeur Jouven, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous, on revient dans un instant et on va continuer de vous détailler la prise en charge proposée actuellement aux patients qui souffrent d'un trouble du rythme. On parlera aussi un peu de recherche. Quelles sont les pistes pour améliorer encore la vie des malades concernés ? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Xavier Jouven. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes également chercheur à l'INSERM. Alors, on parle des troubles du rythme cardiaque avec vous cet après-midi. Et donc, on en était à la prise en charge finalement de ces patients qui souffrent d'arythmie, notamment la plus fréquente, hein, la fibrillation atriale ou auriculaire. Parfois, il y a des médicaments, on en a parlé un petit peu, il peut y avoir des bêta-bloquants, des anticoagulants ou d'autres médicaments anti-arythmiques. Mais parfois, il faut intervenir chirurgicalement sur le cœur. Qu'est-ce qu'on va lui faire à ce cœur ?
Alors, ce n'est pas chirurgicalement. En fait, on va dans le cœur, mais en utilisant, en passant par des veines.
Donc, ce n'est pas une opération à cœur ouvert.
Ah non,
hein,
pas
on
du tout.
Tout le monde.
On n'ouvre pas le thorax. Non, on passe simplement par les veines, souvent au niveau de la jambe, et puis on remonte dans le cœur. Une fois qu'on est dans le cœur, on essaie de se positionner sur les zones qui sont responsables des arythmies. Et on regarde la zone qui est responsable de l'arythmie.
Et vous la grillez.
Et alors, soit on la chauffe, soit on la refroidit. Mais on essaie d'abîmer effectivement les cellules suffisamment pour qu'elle n'ait plus d'activité électrique anormale. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, selon les arythmies, les localisations ne vont pas être les mêmes. On va faire des lignes, par exemple, d'ablation, on va faire des points. Enfin, Voilà, il y a une stratégie.
C'est du cas par cas, en tout cas.
C'est du cas par cas.
Et dans quel cas on doit poser un pacemaker, une petite pile, justement, puisque ce n'est pas systématique, il doit avoir des critères assez particuliers, ou même un défibrillateur implantable. Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un pacemaker et un défibrillateur implantable ?
Alors, dans quel cas on met un pacemaker ? C'est quand le cœur est trop lent. Quand le cœur est trop lent et qu'il y a des symptômes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas bien parce que le cœur est trop lent, parce qu'il peut être lent, comme on disait chez le sportif, et il n'y a aucun souci. Mais quand il est trop lent et qu'il y a des symptômes, ou que le cœur est en train de s'arrêter, là, il faut mettre un pacemaker. Le pacemaker, il envoie une activité électrique, justement, pour maintenir une fréquence minimale. Alors, on va dire, c'est 50, c'est 60, c'est, voilà, ça, on le règle. Le défibrillateur, comme son nom l'indique, il a la fonction de pacemaker aussi. Il peut stimuler, mais aussi, il peut défibriller. C'est-à-dire que si le cœur passe en arythmie, cette fois-ci, c'est une arythmie ventriculaire, hein, c'est ça, celle-là qui est vraiment dangereuse, à ce moment-là, il détecte l'arythmie, il charge ses condensateurs et il envoie lui-même un choc électrique. C'est lui qui fait le diagnostic et qui envoie un choc. C'est comme un défibrillateur externe que vous pouvez voir dans différents lieux publics, dans les stades, dans les... Voilà.
Là, il est dedans.
Mais simplement, il est plus petit et il est à l'intérieur.
Alors, on va passer un petit peu à la recherche parce que donc il y a beaucoup de choses qui sont encore explorées sur, pour mieux comprendre peut-être demain ces troubles du rythme. Vous faites partie de ceux qui cherchent activement, notamment à mieux comprendre, à mieux prédire ce qu'on appelle la mort subite avec un projet de recherche qui est soutenu par la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. Il consiste en quoi ce projet ? Je crois qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans, enfin plein de choses. Expliquez-nous.
Alors, effectivement, on a fait des gros progrès dans la prise en charge des morts subites avec le massage cardiaque, puisque maintenant, tout le monde fait un massage cardiaque. Maintenant, il y a des défibrillateurs dans les stades, dans les lieux publics. Vous savez que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années.
Donc, ce n'est pas grâce à vous, les médecins, qu'on a progressé. C'est grâce à nous, citoyens, qui aident, qui massent.
La survie, je peux le dire, effectivement, l'augmentation de la survie est au centre d'expertise morts subites de Paris, on fête justement aujourd'hui les 10 ans de ce registre. Eh bien, il y a deux fois plus de personnes qui font un massage cardiaque qu'il y a 10 ans.
C'est incroyable.
On est passé de 40% à 80% maintenant de gens qui font un massage cardiaque sur Paris et Petite Couronne. Vous voyez, donc c'est vraiment un gros succès. Et oui, effectivement, c'est ceux qui sauvent des vies. C'est d'abord les voisins, les témoins. C'est eux qui reconnaissent, c'est eux qui appellent les secours et c'est eux qui font le massage cardiaque. Et si ceux qui sont là, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas infirmiers, qui sont pas, voilà, ne font rien, les 10 minutes s'écoulent. 10 minutes, s'il n'y a rien pendant ces 10 minutes, c'est plié. Donc, effectivement, la première et la plus importante, c'est le citoyen.
Votre projet de recherche, donc, il va consister en quoi ?
Alors, le projet de recherche, là, c'est beaucoup plus complexe. En fait, ce n'est pas améliorer la survie, c'est identifier précocement les gens qui sont à risque. Puisque, évidemment, on sait bien que, bien sûr, quand même, on a des taux de survie qui sont des taux de survie qui sont que de, aujourd'hui, à peu près 10%. C'était 3% il y a 10 ans, quand même. Oui. Donc, vous voyez, c'est... Mais 90% il reste encore. Donc l'idéal, c'est de pouvoir identifier précocement les gens à risque. Et donc, depuis une dizaine d'années, on utilise des méthodes statistiques un peu particulières qui, soit on les laisse faire un peu elles-mêmes, soit on les pilote, soit on fait les deux, pour essayer d'identifier les précocement, avant donc, que l'événement arrêt cardiaque survienne, les gens à risque.
Merci beaucoup, professeur Jouven, d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur les troubles du rythme cardiaque. Et pour finir, je rappelle donc que la recherche en la matière a toujours besoin de fonds. Donc, si vous souhaitez y contribuer, n'hésitez pas à aider les chercheurs. Vous pouvez faire un don sur www.frm.org. Voilà, c'est dit. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Le docteur Jimmy Mohamed nous propose aujourd'hui de faire un point sur le don du sang. Nos réserves en produits sanguins sont au plus bas. Il y a urgence. Il va nous expliquer tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, on va passer à notre chronique Les Bobos du quotidien avec une alerte plus qu'un bobo aujourd'hui, Jimmy. L'établissement français du sang est très inquiet parce que depuis plusieurs semaines, les réserves en sang sont beaucoup, beaucoup trop basses en France.
Oui, avec les jours fériés du mois de mai et le déconfinement, les dons ont été moins nombreux que d'habitude alors que les besoins sont constants. Je vous rappelle que nous avons besoin tous les jours de 10 000 dons pour soigner les patients. Et l'établissement français du sang est à la recherche de deux groupes sanguins particulièrement rares, le groupe B et le groupe O. C'est-à-dire que si jamais vous avez du temps, quel que soit votre groupe, mais encore plus, si vous êtes du groupe B ou du groupe O, allez donner pour les malades.
Alors, ces dons précieux, rappelons-le, Jimmy, ils permettent à quel type de patient d'en bénéficier ? Ils sauvent littéralement des vies, c'est important de le rappeler. Hein.
Oui, et puis on oublie que ça sauve beaucoup de vies et des vies très différentes. Alors, si on prend le don de sang classique, il va permettre de transfuser des malades, comme par exemple ceux qui vont subir une intervention chirurgicale, des patients qui vont avoir des traitements très lourds, comme des chimiothérapies, et puis aussi des femmes qui vont avoir un accouchement difficile avec une hémorragie de la délivrance, mais aussi à des accidentés de la route, la vie a repris.
Ça peut tous être dans ce cas un jour. Hein.
Exactement, ça peut toucher, nous toucher. Et puis même ceux qui ont des maladies chroniques, comme des maladies du sang, en particulier chez les enfants avec de leucémie, ou des malades atteints notamment de drépanocytose. Donc vous voyez que l'éventail des bénéficiaires est extrêmement large. Et là, je vous parle simplement que du don de sang classique. Je vous ai pas parlé du plasma ni des plaquettes.
D'accord. Et on peut aller donner son sang parce que ça, c'est dans le contexte justement qui explique peut-être justement les réticences de certains à aller donner. En ce moment, on est nombreux à aller se faire vacciner contre le Covid. Il n'y a pas de contre-indication. Si je viens d'avoir mon vaccin, une dose, deux doses, je peux aller donner mon sang.
Oui, vous avez raison, Mélanie. C'est peut-être une raison pour laquelle les dons sont en baisse. Après la vaccination, quel que soit le vaccin, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, peu importe, que ce soit après votre première ou deuxième injection, vous pouvez, dans la foulée, aller donner votre sang avec exactement les mêmes contraintes et les mêmes questions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu de la fièvre dans les jours précédents? Est-ce que vous êtes malade? Avec le même interrogatoire. Donc oui, vous pouvez donner votre sang juste après avoir été vacciné.
Y compris pour ceux qui ont eu le Covid. Hein. On peut y aller si on n'est pas encore vacciné, qu'on a des anticorps Covid. Enfin, peu importe, on peut aller donner son sang à distance.
Voilà. Si vous avez une forme asymptomatique, il faut attendre 28 jours. Sinon, c'est 14 jours. Quoi qu'il arrive, un entretien juste avant pour savoir si vous êtes éligible. Mais oui, si vous avez eu le Covid, vous pouvez aller, après quelques semaines, vous donner votre sang.
D'accord. Et on risque rien, on est d'accord, c'est pas dangereux. À aucun moment, rien n'est dangereux pour le donneur. Hein.
Non, évidemment, toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du donneur. Il y a un entretien pré-don, justement, pour s'assurer que le prélèvement ne présente aucun risque. Évidemment que c'est du personnel médical et qualifié, comme moi, qui sera là sur place pour utiliser du matériel à usage unique. Alors évidemment, certains vont faire un petit malaise vagal, sans gravité, et vous avez une petite collation.
Voilà, même pour la collation.
Bah oui,
c'est toujours
pour la vaccination,
bon.
On ne donne pas de collation, mais pour le don de sang, on vous donne une petite collation.
Voilà, bon, c'est une raison de plus pour y aller. Concrètement, comment ça va se passer, Jimmy? Je vais aller donner mon sang. Certains disent, oh là là, mais j'ai pas le temps, c'est compliqué. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que ça prend tant de temps que ça?
Non, c'est hyper rapide. Alors, si on compte entre le moment où vous arrivez, l'interrogatoire, le prélèvement, la période de repos, eh bien, il faut compter une heure. C'est extrêmement rapide.
Sur la pause déjeuner, ça peut se faire n'importe
c'est
quand,
gérable.
Une heure.
D'autant plus que lorsque vous faites un don de sang total, on va vous prélever des globules rouges, ça vous le savez, mais aussi des plaquettes et du plasma qui vont aller à trois malades différents. Ça veut dire qu'en une heure de temps, vous allez sauver trois vies.
Franchement,
donc, je
une
pense
heure
que une heure pour trois vies,
ça
c'est
vaut,
pas mal.
Ouais.
Si vous voulez avoir plus d'informations pour savoir où se trouvent les points de collecte les plus proches, allez sur dondesang.efs.santé.fr. Je répète, dondesang.efs.santé.fr. Les malades ont besoin de vous.
Merci beaucoup, Jimmy. Allez, je le répète moi aussi une fois de plus, dondesang.efs.santé.fr. Merci, Jimmy, et cet appel très important de santé publique. On compte bien évidemment sur vous.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, tout ça, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question de Paola. Je vous la lis. Enfin non, Jimmy va nous la lire. Tiens, ça change un peu.
Oui, bien sûr. Avec mon mari, on a appris il n'y a pas longtemps que j'étais stérile et ça m'a vraiment affecté. Depuis, je n'arrive pas à penser à autre chose et ça me bloque complètement. Comment faire? Alors, Catherine, on comprend que c'est une nouvelle terrible, surtout quand on veut vraiment avoir un enfant. Mais du coup, est-ce que la stérilité peuvent jouer sur la sexualité?
Absolument. Alors, pas bien sûr l'infertilité, mais la connaissance de cette infertilité, c'est-à-dire d'un pouvoir que l'on n'a pas. Le pouvoir de ne pas pouvoir faire de bébé, c'est comme se dire que cette zone sexuelle, cette zone génitale, parce qu'évidemment, c'est une confusion entre la partie utérine et la partie sexuelle, et bien comme si elle avait une quelconque incidence sur ma capacité d'érotisme. Alors, c'est vrai que de toute façon, une femme, même qui va faire l'amour, le fait de savoir qu'elle pourrait en faire un bébé, même si elle ne le désire pas, mais qu'elle pourrait en faire un bébé, décuple son érotisme, sa sexualité, son lien à l'autre, parce que c'est une façon de témoigner de son grand pouvoir. Donc quand une femme sait qu'elle est stérile, alors surtout si elle veut avoir un enfant, mais même une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, regardez par exemple toutes les femmes qui sont ménopausées, même celles qui se disent « ouf, je n'ai plus à prendre la pilule, je n'ai plus à m'inquiéter de maternité éventuelle », eh bien dans la réalité, c'est une idée de perte de pouvoir personnel, une perte du pouvoir de la féminité qui vient tout d'un coup leur laisser penser qu'elles n'ont plus rien à offrir, plus rien à donner et du coup déclinent leur compétence à la sexualité. Ce n'est pas pour toutes, hein, parce que certaines au contraire vont pouvoir comme ça bien séparer ceux qui les inquiètent, à savoir la maternité, pour s'adonner très tranquillement à l'érotisme.
Elle dit « moi ça m'a complètement bloqué l'annonce de cette stérilité ». On ne sait pas comment l'a pris de ce côté-là son mari. En tout cas, elle parle d'une baisse de libido assez forte. Clairement, il faut peut-être en
en parler avec son conjoint pour que, je ne sais pas comment les choses peuvent s'arranger sur ce terrain-là, parce que la stérilité, si elle est définitive, effectivement, ça, de ce côté-là, ça ne changera pas.
Oui, surtout que vous imaginez bien que si elle a eu ce résultat, cette annonce, c'est qu'elle est passée par tous les examens, par on fait attention.
Quelque chose de très médicalisé, c'est-à-dire probablement.
Elle a été, voilà, elle a dû passer déjà tout le parcours du combattant.
Elle et son mari, probablement.
Exactement,
d'ailleurs.
Ce qui fait qu'ils ont dû programmer le on fait l'amour là, mais pas là. Puis après, on va chez les médecins pour éventuellement intervenir.
Ce sont déjà des périodes, même si on arrive à avoir un enfant derrière, qui peuvent perturber la sexualité.
Ah oui, bien évidemment. Il y a des tas de couples qui sont en grande, grande difficulté, rien que dans ce processus, pourtant d'aide médicale. Donc vous pensez bien que quand on vous dit définitivement tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant, là il y a comme une sorte de castration. Forte, et je crois que là, non seulement c'est pouvoir être accueilli dans la douceur, bien évidemment par son partenaire, mais là, pour le coup, c'est moins le partenaire qui peut tout faire que elle qui a à faire un travail psychologique pour voir que une impossibilité de faire des bébés ne veut pas dire une impossibilité générale dans sa compétence de créativité et notamment de créativité érotique.
Mais du coup, est-ce que ça peut nuire à la relation à tel point que le couple peut se briser si jamais on n'arrive pas à avoir d'enfants car on en souhaite et que du coup la sexualité en est altérée, est-ce que ça peut aboutir à des séparations?
Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs vous savez très bien qu'il y a des mariages qui sont annulés aussi pour ces mêmes raisons au sens religieux du terme par exemple, et donc parce qu'en face il y a aussi potentiellement un homme qui veut aussi devenir père et que la sérénité de l'un vient contraindre la vie future de l'autre et sa propre parentalité, donc c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a celui qui est face à cette impossibilité et qui du coup contraint l'autre, qui doit masquer sa souffrance sa souffrance par rapport à ce qui est déterminé par l'autre, et donc bien souvent évidemment ça entraîne des choses assez complexes.
Mais il y a d'autres moyens d'avoir des enfants, on sait très bien, moi je dis pas que ce soit facile et qu'il faut acceptable pour certains, mais une fois qu'elle aura peut-être accepté une autre voie pour avoir un enfant, est-ce que du coup la sexualité peut revenir quand même au beau fixe?
De toute façon, la sexualité, je vous dirais que souvent, on l'a dit, on en a plaisanté tous ensemble, souvent les femmes jouissent à compter de 40 ans pour la majorité d'entre elles, bien d'autres, bien avant, bien sûr. Donc à un moment où le sujet de devenir maman n'est plus à l'ordre du jour. Donc c'est pour vous dire que l'érotisme trouve à chaque fois ces temps de liberté décorrélés justement de ce sujet de parentalité. Mais là, c'est une jeune femme qui est dans un temps qui est relatif normalement à sa maternité, où toute la société dit, alors quand est-ce que tu nous fais un bébé ou tu as des enfants, et pendant tout ce temps ces non, ces impossibles sont des choses.
Elle pourrait se retrouver dans la sexualité avec son mari justement dans ces difficultés là.
Elle pourrait, mais pour ça il faut qu'elle voit qu'elle peut séparer ce que nous faisons, ce que notre société fait aujourd'hui ou invite plus que jamais aujourd'hui, c'est-à-dire à vraiment scinder la partie parentale et de la partie érotique.
Très bien, merci beaucoup Catherine, bien sûr. D'accord. Beaucoup de courage bien sûr à Paola et son mari. Catherine, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres conseils. En attendant, portez-vous bien.
Tout de suite, historiquement vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Oh, vous êtes encore trop jeune, mais nous aujourd'hui, on aime les centenaires. Et oui, ils ont vécu plus de 100 ans. Alors, il y a l'inventeur de l'hydravion Henri Fabre, l'actrice d'Hollywood Olivia de Havilland, inoubliable
dans
Mélanie,
autant n'emporte le vent.
Ah, oui. Et vous avez choisi qui?
Robert Marchand, qui nous a quittés il y a quelques jours. Malheureusement, Robert était un champion de cyclisme avec tout plein de records à son actif dans la catégorie assez peu disputée. C'est vrai, des plus de 100 ans. Je vous raconte son destin incroyable.
Eh bien, on sera à l'écoute, bien sûr, comme tous les jours avec Jimmy Mohamed et vous aussi, qui nous écoutez, restez sur Europe 1.